À Rencontre spirituelle, aujourd'hui, c'est la fête d'un pape remarquable, Léon IX, mais je compte vous en parler peut-être l'an prochain, qui a été nommé évêque à 24 ans, qui a été élu pape très jeune et qui est mort à 52 ans. Et c'était un grand pape, que cet homme, un homme de grand courage. Et justement, aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelqu'un qui a été pris lui-même dans des problèmes extrêmement graves dans son administration, son épiscopat. C'est le premier évêque de Montréal, Monseigneur Jean-Jacques Lartigue, qui était le cousin de Louis-Joseph Papineau et le cousin aussi de Benjamin Vigé, premier maire de Montréal. C'est assez extraordinaire, c'était vraiment une famille exceptionnelle que c'est ce groupe de cousins. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Monseigneur Jean-Jacques Lartigue, L-A-R-T-I-G-U-E, au cas où certaines personnes le connaîtraient moins, est né à Montréal. Il est né à Montréal le 20 juin 1777, donc une quinzaine d'années après la conquête du Canada. Son père, Jacques, natif de France, natif de Miradoux en France, est médecin. Et sa mère, Marie-Charlotte Chérier, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas, hein, la rue Chérier à Montréal, c'est de cette famille. Elle est la fille aînée, elle, du notaire et d'un négociant, François Chérier de Saint-Denis-sur-le-Richelieu. Et par elle, donc, comme je vous ai dit, bien, il est apparenté à trois familles importantes de la bourgeoisie du temps, les Chérier, les Vigé et les Papineau. Jean-Jacques Lartigue est fils unique. Au début, il est de santé fragile, mais il est extrêmement doué intellectuellement. Il est très vif d'esprit. Il complète en 1793, à l'âge de 16 ans, ses études classiques au Collège de Montréal. Déjà à 16 ans, j'avais un oncle, le frère de ma mère, comme ça, qui avait fini au Collège Sainte-Marie à 16 ans. C'est très rare. Hein? Et ce Collège de Montréal avait été fondé, évidemment, par les Sulpiciens. En 1767, hein, c'est eux qui étaient les seigneurs de Montréal et qui régnaient un peu sur l'église de Montréal aux dépens de l'archevêque de Québec. Alors, dans le but d'accéder un jour, comme plusieurs membres de sa famille, à des fonctions politiques ou même des fonctions administratives, mais Jean-Jacques Lartigue se consacre à plein temps, durant un an, à l'étude de la langue anglaise, puisque c'est la langue qui se met à dominer et qu'il faut parler jusqu'à un certain point dans ces familles bourgeoises. Et il l'a étudié vraisemblablement auprès d'un professeur irlandais, Roger Bergin, ou Roger Bergin, qui était engagé depuis 1791 par le Collège de Montréal. Alors, durant les trois années suivantes, il s'adonne à l'étude du droit. On faisait ça comme ça, on étudiait le droit auprès d'autres avocats. Alors, il a étudié auprès de l'avocat Louis-Charles Fouché et l'avocat Joseph Bédard. Mais en septembre 1797, à 20 ans, avant d'être reçu au barreau, il décide subitement de se diriger à la surprise générale vers la prêtrise. C'était très rare qu'un garçon d'une famille comme celle-là pour le sacerdoce. Et sa nouvelle orientation est tout à fait à contre-courant des tendances de son milieu bourgeois. Et en effet, à cette époque, dans les familles bourgeoises de Montréal, où sont à la mode des idées plutôt révolutionnaires et anticléricales qui viennent de France, évidemment, eh bien, les jeunes ne sont pas facilement encouragés, puis ils ne songent pas à devenir prêtres. Et ça ressemble beaucoup à la période que l'on vit depuis déjà une vingtaine ou une trentaine d'années, ici, en Occident, et en particulier au Québec. Le clergé a en effet la réputation d'être sans grande formation académique, d'être peu instruit, quoi, d'être privé aussi de pouvoir réel sur la société, Puis en plus ça, ben, d'être surchargé de travail, exactement comme nos prêtres aujourd'hui. Vous savez qu'à Montréal, de plus en plus, des prêtres ont 2-3 paroisses, et on calcule que dans certaines régions du Québec, il y a même des prêtres qui vont avoir bientôt 10 paroisses, comme on le fait en France depuis assez longtemps. J'avais un ami au grand séminaire, l'abbé Ovila Brabant, qui a quitté le Québec peu de temps après son ordination, et qui, maintenant, à l'âge de 70 ans, a 10 paroisses dans la région de Tours, en France, celle de cette région, d'où une grande partie de nos familles viennent, d'ailleurs. Monseigneur Pierre Deneau, qui réside à Longueuil, qui est évêque du vaste diocèse de Québec, ne compte en moyenne qu'un prêtre pour 1200 fidèles à cette époque, alors qu'en 1759, juste avant la conquête, il n'y en avait un pour 350 fidèles. Et la situation va toujours en s'aggravant. De sorte qu'en 1830, il n'y aura qu'un prêtre pour plus de 1800 catholiques. Et c'est un fait significatif. De 1805 à 1840, la ville de Montréal, savez-vous combien elle va donner de prêtres à l'Église pendant une période de 35 ans? 22 prêtres seulement. C'est tout. Donc à peine plus d'un prêtre par 2 ans, quoi. Alors, c'est pas d'aujourd'hui que l'Église a des difficultés. Dans ces circonstances, on comprend bien que l'évêque accepte avec empressement une candidature aussi exceptionnelle que Jean-Jacques Lartigue. Et dès le 30 septembre 1798, il a 21 ans. Après un an au Collège de Montréal, il reçoit déjà le sous-diaconat et l'année suivante, il est ordonné diacre. Et le même jour, Monseigneur Deneau le choisit comme secrétaire, tout en lui permettant, durant un an, de consacrer le meilleur de ses énergies à parfaire ses études de théologie. Jean-Jacques Lartigue aura l'honneur, d'ailleurs, de donner, en la paroisse de Longueuil, où réside Monseigneur Deneau, la prédication à la messe de minuit le jour de Noël, 1799. Hein? Il n'a que 22 ans. On note déjà qu'il a des grands dons et des grandes qualités d'orateur. Son évêque le juge digne de recevoir l'ordination sacerdotale à l'âge de 23 ans. C'est pas absolument exceptionnel, c'était un an plus tôt que le règlement, mais on enfreignait assez souvent, avec permission, ce règlement, et souvent les jeunes étaient ordonnés prêtres à 23 ans, même encore il y a 20-25 ans. Alors il est ordonné le 21 septembre 1800, et la cérémonie a lieu en l'église Saint-Denis-sur-le-Richelieu, cette paroisse mémorable et importante dans l'histoire du Québec. Et on va le voir tout à l'heure. Et son oncle est grand vicaire à cet endroit-là, François Chérier. Il est curé. Alors, devenu prêtre, il demeure secrétaire de Monseigneur Deneau et en même temps, à partir du 2 novembre 1801, il est nommé officiellement vicaire à la paroisse de Longueuil. Puis, dans cette double fonction, il acquiert une bonne expérience du ministère paroissial. Une connaissance assez privilégiée de l'ensemble du diocèse. Il accompagne son évêque lors de ses longues et épuisantes visites pastorales. Il se rend même, en 1803, ça pourra vous surprendre, jusqu'au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Pourquoi? Parce que ça faisait partie du diocèse de Québec. Alors, à plusieurs reprises, au milieu de ses activités, il manifeste à son évêque le désir de devenir sulpicien, afin de mener une vie plus calme, plus régulière, plus adonnée aux études, car c'est un intellectuel. Mais Monseigneur Deneau ne veut pas renoncer à son secrétaire qui a des connaissances en droit et qui lui est devenu indispensable. Et ce n'est qu'à la mort de son évêque, en 1806, au début de l'année, que Jean-Jacques Lartigue, ce jeune prêtre, va pouvoir enfin réaliser son désir. Et un mois après le décès de son évêque, il va être admis à Saint-Sulpice, où on le connaît déjà, évidemment. On l'apprécie depuis toujours. Alors, il remplit plusieurs tâches au service de la compagnie près de Saint-Sulpice. Il est vicaire à la paroisse Notre-Dame, qui est pour ainsi dire la paroisse. Mon père, qui est né en 1881, quand il parlait de Notre-Dame, disait jamais la paroisse Notre-Dame. Il disait tout simplement la paroisse. Pour lui, c'était la paroisse. Ces gens, des générations donc qui nous ont précédés il y a longtemps, avaient gardé ce vocabulaire. Comme mon père disait toujours pour parler de nous, il disait les Canadiens. Il y avait les Canadiens, ça c'était nous. Et les Anglais, ben c'était des gens qui n'appartenaient pas à notre pays, qui étaient des occupants, quoi. C'était la psychologie des gens de cette époque. Pourtant, il est né en 1881, il parlait comme ça en 1815, 1826, moi je l'ai entendu en 1840, parler encore avec ce vocabulaire curieux. Et alors, il aide surtout les malades et les pauvres à la paroisse Notre-Dame. Il est aussi archiviste du séminaire, il est chargé de la rédaction de cahiers de cérémonie pour la paroisse. Il écrit même un livre pour réfuter un pasteur protestant, le pasteur Bassett, qui accusait l'Église catholique de toutes sortes de choses. C'était la période où les protestants et les catholiques se disputaient en publiant des livres. Et puis, il a préparé aussi en français, je vous le signale, c'est très intéressant, une édition critique du Nouveau Testament. Et oui, une édition critique du Nouveau Testament en français. Vous savez, les gens qui nous disent, ah, c'est défendu de lire la Bible, c'est défendu. Bien non, j'ai une Bible publiée à Montréal vers 1845. Elle était à la disposition de tout le monde. Quoi. Ils ne publiaient pas un livre pour 25 personnes, évidemment. Hein. Alors, l'abbé Jean-Jacques Lartigue se tient au courant des affaires du pays. Et ses deux cousins, là, Louis-Joseph Papineau puis Denis-Benjamin Vigé, qu'il a l'occasion, évidemment, de rencontrer, sont membres de la Chambre d'Assemblée, on dirait aujourd'hui de l'Assemblée nationale, si vous voulez. Et ils sont tous trois des patriotes. Hein. Ils sont conscients, surtout lui, comme juriste, comme avocat, des injustices épouvantables commises envers la majorité canadienne. Hein. Canadienne, je vous le spécifie, ça veut dire les francophones de souche. Là. C'est pas... Il faut comprendre le vocabulaire de l'époque. Puis, il n'a pas dans son cœur cette espèce d'oligarchie anglaise qui est à la tête du gouvernement provincial. Puis, il se sent en sympathie avec un grand nombre de revendications des membres du Parti canadien. Encore, Parti canadien, c'est comme on dirait aujourd'hui, Parti québécois, ou presque. Je ne veux pas faire absolument rendre ces gens-là plus indépendantiste qu'il ne l'était, mais il l'était, en fait. Et ils appelaient ça le Parti canadien. Mais l'abbé Lartigue n'accepte pas le style qui est souvent exalté, inflammatoire de leur journal, le Canadien. Il est patriote, mais pas à ce point-là. Ce n'est pas un révolutionnaire. Les idées révolutionnaires de désobéissance civile, de révolte armée surtout, qui sont mises en application plus tard par une minorité de Canadiens, n'est-ce pas, en 37-39, vont entraîner d'ailleurs tout ce mouvement des patriotes vers un échec plutôt retentissant, et c'est terrible. En 1812, pour retourner en arrière, quand les Américains ont envahi le Canada, vous savez que le Canada a été envahi deux fois par les Américains afin de l'annexer, et nous sommes battus avec, en côtoyant les Anglais, et les Écossais, ben nous avons repoussé les Américains. Mais ça n'a pas été facile. Hein? Ils ont occupé Montréal, les Américains. Et alors donc, en 1812, ben il y a eu une manifestation contre la conscription. Une manifestation assez violente qui a éclaté dans la région de Pointe-Claire et de la Chine. C'était francophone. Hein? Alors le supérieur des Sulpiciens, qui a la responsabilité du gouvernement spirituel de toute l'île de Montréal, comme je vous disais tout à l'heure, hein, indépendamment de l'évêque. C'était une vieille tradition qui datait de 175 ans. Eh bien, il croit son devoir d'intervenir. Et puis, il demande à l'abbé Lartigue de se rendre dans ces deux paroisses-là, de Pointe-Claire et de la Chine, afin d'apaiser les esprits, puis de ramener les fidèles à l'obéissance. À l'obéissance civile, évidemment. Et là, l'abbé Lartigue a toutes les qualités nécessaires. Et c'est un rôle extrêmement difficile. Il est patriote, puis il voit que les gens sont trop exaltés et veulent prendre les armes. Et son cœur est déchiré. Et il y a son cousin aussi, Papineau, qui est là, et qui est plus près des patriotes. qui pense à la violence. C'est pas facile pour lui. Alors il dit, c'est-à-dire on dit de lui que Canadien puis Montréalais par surcroît, ses liens de parenté, donc avec les Chériers, les Vigiers, les Papineaux, le mettent au-dessus quand même de tout soupçon de collusion avec les autorités britanniques. On le sait, Mgr Lartigue n'est pas un collaborateur, comme on dirait, selon le langage des Français lors de l'occupation nazie. Ce n'est pas un collaborateur. On l'accusait de ça, mais c'est faux. Et de l'avis de tous, l'abbé Lartigue s'acquitte avec succès de sa mission délicate. Au cours des années qui viennent, on lui confie d'autres missions, encore plus importantes sur le plan pastoral, et à 6 reprises, de 1814 à 1819, il est nommé comme étant le plus apte pour accompagner l'évêque coadjuteur de Québec, Mgr Panet, qui va devenir chef de l'Église catholique, dans ses visites pastorales de tout le district de Montréal. Alors il doit donc organiser en détail ses visites. Il assume la tâche aussi de maître de cérémonie, qui était très compliquée à l'époque, et souvent il doit adresser lui-même la parole. Alors il est bon de souligner que sans qu'il s'en doute, cette expérience auprès de Mgr Panet, faite à répétition pendant plusieurs années, le prépare à devenir évêque responsable de tout ce district. Le supérieur des Sulpiciens, M. Roux, un Français, lui confie enfin, en 1819, une mission très délicate. C'est celle d'aller défendre à Londres les biens de Saint-Sulpice, qui, une fois de plus, sont convoités par les Anglais, les autorités britanniques. Sa connaissance de l'anglais, sa formation d'avocat, constitue évidemment des atouts majeurs. Et c'est au cours de ce séjour de 10 mois en Europe que l'abbé Jean-Jacques Lartigue apprend sa nomination comme vicaire général évêque, auxiliaire et suffragant de l'évêque de Québec pour le district de Montréal. C'est ce qui va l'amener à devenir le premier évêque de Montréal. Mais ça, il hésite beaucoup à accepter. Parce que c'est pas facile, c'est très, très, très embêtant dans la situation politique, hein? Mais physiquement d'ailleurs, puis spirituellement. Il se sent plutôt incapable d'assumer des responsabilités aussi lourdes. Alors il prévoit en particulier l'opposition des Sulpiciens français de Montréal, qui, depuis plus d'un siècle, gouverne tout ce territoire avec une mentalité très française, même si le Canada est séparé maintenant de la France. Et ils n'accepteront pas facilement que la présence d'un évêque canadien, comme on dit, c'est-à-dire francophone du Québec, du Canada, on appelle ça un évêque canadien, c'est le vocabulaire, je vous le rappelle, qu'un évêque canadien, donc à Montréal, diminue leur influence, puis celle de leurs supérieurs. Alors, il arrive à Montréal le 7 août 1820, après avoir accompagné Mgr Plessis aux États-Unis. Et l'abbé Lartigue a été reçu, mais temporairement, au séminaire. Au séminaire, c'est-à-dire être recevoir par ceux qui dirigent Montréal, l'Église de Montréal, qui n'aiment pas tellement que l'évêque ou des évêques empiètent sur leur pouvoir. Curieuse chose, hein? Ses parents sont décédés, Mgr Lartigue. Il n'y a pas pour lui à ce moment de meilleur endroit pour séjourner qu'au séminaire. Cependant, ses relations avec plusieurs de ses confrères français sont devenues peu à peu très très difficiles. Et le père Chaussé écrit plutôt le supérieur du séminaire avait tenté d'empêcher son ancien sujet, l'ancien sulpicien, l'abbé Lartigue, d'accepter l'épiscopat, même après que Lartigue en eut reçu l'ordre du pape. Imaginez, et devant la détermination du nouvel évêque, il avait alors cherché à retarder la cérémonie du sacre. Il avait suggéré même à Mgr Plessis, l'évêque principal, d'obtenir au préalable l'autorisation du gouverneur anglais. Alors le sacre a lieu quand même le 21 janvier 1821 dans leur église Notre-Dame de Montréal, sous la présidence évidemment de Mgr Plessis. Mais dès le 5 février, Mgr Lartigue est contraint de quitter le séminaire des Sulpiciens, car le supérieur, M. Roux, veut qu'il aille immédiatement prendre possession d'une cure sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Il veut le chasser de Montréal, il ne veut pas l'avoir sur son territoire. Et le nouvel évêque va plutôt se réfugier où? sur la rue Saint-Paul, chez les hospitalières de Saint-Joseph à l'Hôtel-Dieu. Les religieuses ont beaucoup de courage. Elles sont les seules qui le comprennent. Elles l'accueillent avec grande générosité, en l'assurant qu'il pourra y résider aussi longtemps qu'il le voudra. Alors il décide, avec l'encouragement de Mgr Plessis, de se fixer à Montréal, malgré les Sulpiciens. Et ils n'en veulent pas, évidemment, sur leur territoire. Et le 20 février suivant, toujours en 1821, Mgr Plessis, dans un mandement solennel qui concerne l'établissement de Mgr Lartigue sur l'île de Montréal, déclare que celui-ci a droit aux mêmes honneurs et aux mêmes fonctions que l'évêque de Québec dans le district de Montréal. Alors les Sulpiciens rejettent ce mandement de Mgr Plessis en invoquant le droit gallican. C'est le droit de... le droit religieux, le droit de l'Église, des règlements qui viennent de France, qui étaient propres tout à fait à l'Église de France. Or, les Sulpiciens sont les patrons du district de Montréal depuis 150 ans. Ils sont devenus pratiquement indépendants des évêques de Québec, qui depuis 1787 ne trouvaient pas nécessaire d'effectuer des visites canoniques à cause de la qualité de leur gestion, puis de leur ministère. Il faut dire que les Sulpiciens administraient bien quand même. Alors, il faut dire que les Sulpiciens aussi consacraient le quart de leur budget à l'assistance sociale, aux soins des pauvres. Alors, pourquoi ce changement soudain? Ils ont beaucoup de difficultés à accepter cela. Les archives de l'Hôtel-Dieu, chez les sœurs hospitalières de Saint-Joseph, qui sont toujours ici à Montréal, à l'Hôtel-Dieu... Mais dans ce temps-là, l'Hôtel-Dieu, je vous le rappelle, était sur la rue Saint-Paul. C'est là que s'est réfugié Mgr Lartigue. Les archives possèdent un manuscrit très précieux intitulé « Annales 1756-1861 ». Et dans le tome 2, écrit par Sœur Raymond, on voit une importante section de 15 pages qui s'intitule « Séjour de Mgr Lartigue dans notre maison, abrégé de sa vie, de sa mort et de ses obsèques ». On peut lire « N'ayant pas... l'espoir d'avoir de sitôt de cathédrale, ni de palais épiscopal, et ne pouvant demeurer plus longtemps au séminaire, le nouveau prélat vint le 2 février 1821 de la même année s'établir dans les appartements de notre hôpital destinés aux prêtres malades. Et ainsi nous eûmes l'insigne honneur de voir notre digne évêque commencer son épiscopat dans notre maison. Il est réfugié là. Alors, on dit que le 19 septembre 1825, Monseigneur quitta son pauvre réduit dans notre hôpital pour aller s'installer dans sa nouvelle demeure. Oui, le détail de l'épisode est discrètement signalé par les annales de l'Hôtel-Dieu, est exposé en détail. Il suffit de rappeler ici qu'en 1820, la région de Montréal s'étendait jusqu'au Richelieu, comptait 200 000 catholiques, soit 25 000 de plus que la région de Québec, mais... il n'y avait encore qu'un seul diocèse pour tout le Québec. Et par ailleurs, le ministère britannique des colonies, qui régnait ici sur notre pays, n'encourageait pas le développement d'une hiérarchie catholique. Parce que ça aurait été un peu plus visible que la hiérarchie anglicane qui, pendant un certain temps, les Anglais ont cherché à nous convertir à l'anglicanisme. Et on voit ça dans la correspondance de Mgr Plessis. Et dans cette situation, l'Église de Montréal était devenue un fief des Sulpiciens, plus particulièrement des Sulpiciens français, comme je vous ai dit. Ils étaient seigneurs de l'île de Montréal depuis très longtemps. Ils dirigeaient l'unique paroisse de la ville, la paroisse Notre-Dame. Et l'évêque de Québec ne les visitait plus officiellement ou canoniquement depuis 1787. Il avait abandonné. Mais plus encore... les Sulpiciens prétendaient jouir de ce qu'on appelle alors les libertés gallicanes, comme je vous dis, qui les exemptaient de l'autorité de l'évêque de Québec. Alors, M. Roux, leur supérieur, en particulier incarné pendant 33 ans cette perspective, de 1798 à 1831, c'était une querelle de pouvoir, et de pouvoir ecclésiastique qui est bien pénible, je trouve, dans l'histoire de l'Église. Mais je vous la raconte pour ce qu'elle est. Je ne veux rien vous cacher. Les possibilités d'établissement d'un nouvel évêque à Montréal étaient peu nombreuses, mais Mgr Lartigue tire rapidement toutes les conséquences de tout ça. Et il finit par décider de se construire un endroit où vivre. Pour Louis-Joseph Papineau, son cousin, cette situation d'un évêque qui était conduit par ses anciens confrères, les Sulpiciens, était pour le moins très spéciale. Elle ne pouvait que nuire à l'image de l'Église. Et il lutte pour son cousin, Monseigneur Lartigle, pour qu'il obtienne les droits naturels à un évêque canadien de séjourner sur ce territoire qui était encore un peu français à cause des Sulpiciens qui étaient français majoritairement à cette époque. Je m'inspire aujourd'hui de différents textes de Monsieur l'Italien, de Mademoiselle Baboyant, du Père Chaussé, de Monseigneur Chimichella. J'ai puisé ici un peu partout, car évidemment que je ne sais pas tout ça par cœur. Et alors donc, dans un texte fort intéressant du Père Chaussé, on y rappelle que bon nombre de citoyens avaient été choqués de la façon dont Monseigneur Lartigue était traité. Et en 1823, au début de l'année, un comité était formé par les habitants du Faubourg Saint-Laurent. Faubourg Saint-Laurent, quoi, au coin de Sainte-Catherine-Saint-Laurent, au coin de Sainte-Catherine-Saint-Denis, ces rues-là, Montréal. Ils sont constitués pour construire une maison et une église à leur évêque, Monseigneur Lartigue. Et Monseigneur écrit à son cousin, Denis Benjamin Vigée, on battra le fer tandis qu'il est chaud. Alors, son cousin Vigée est évidemment l'un des protagonistes du projet. En dépit des difficultés de cette entreprise et du fait que les marguilliers de Notre-Dame de la paroisse des Sulpiciens aient décidé au même moment de rebâtir leur église paroissiale Notre-Dame, bien, l'évêque demeurait confiant. Oui, Monseigneur Lartigue était confiant. Il dit, dans une lettre à Monseigneur Provencher, « J'ignore si ce projet réussira malgré les entraves qu'on y met de tous côtés et le manque général d'argent. Cependant, si Dieu s'en mêle, Grippet perdra son temps. » Grippet, c'est évidemment le démon. C'était la façon de parler même du curé d'Ars à peu près à la même époque. Hein? Le curé d'Ars parlait du démon qui l'assaillait comme le Grippet. Ou lui donnait des surnoms comme ça, d'autres surnoms. Alors le 22 mai 1823, Monseigneur Lartigue procède à la bénédiction de la première pierre de son église. Ça va être l'église Saint-Jacques. L'absence des Sulpiciens est remarquée. Monseigneur Lartigue, pour sa part, redoute les effets du conflit très scandaleux qu'il se trouve à avoir avec les Sulpiciens. Il craint pour la foi des fidèles. L'Église de Montréal constatait avec tristesse l'évêque de Québec s'en va comme un vaisseau ayant deux capitaines qui commandent chacun de leur côté et qui ne s'entendent pas. Alors à l'automne de 1825, la construction de l'église Saint-Jacques et d'une maison attenante pour l'évêque était terminée. La consécration du nouveau temple a été fixée au 22 septembre 1825 et alors là, Monseigneur Plessis remonte le fleuve, se rend jusqu'à Québec. Se rend jusqu'à Montréal pour présider la cérémonie, à laquelle ont pris part plus d'une cinquantaine de prêtres, mais aucun Sulpicien encore. Alors vivement déçu, l'évêque de Québec exhorte son auxiliaire à la patience et à la conciliation. Il lui dit à un moment donné, « Rendez-vous aimable, glissant. » Je trouve ça un peu curieux comme expression, hein. Ça fait un peu comme des serpents, j'aime pas ça cette expression-là. En tout cas, « Rendez-vous aimable, glissant, coulant. » Et ne laissez aucun prétexte à la malveillance de dire que vous ne vous montrez qu'en mitre et en crosse. Alors, Monseigneur Lartigue n'aidait guère sa cause. Il faut dire que Monseigneur Lartigue était un patriote assez fougueux. Il avait un caractère entier. Il croyait pas en une politique tortueuse qui veut tout ménager pour ce qui était des affaires de l'Église et qui finit par tout gâter. Il était convaincu qu'on y gagne plus en allant franchement, même avec ses adversaires, pourvu qu'on ne cherche pas à les piquer ni à les braver. C'est ce qu'il écrit à Monseigneur Plessis lui-même. Il y a un style direct. Il dit, vous voulez que nous allions à pas compter et sans bruit dans tout ce que nous faisons nous-mêmes? Pour moi, j'avoue que j'y entends rien. C'est vraiment un caractère entier. C'est un chef. Il tient un peu de son cousin Louis-Joseph Papineau. Néanmoins, il était prêt à se faire tout à tous sans prétendre se rendre aimable au-delà de ses forces. Alors, les relations de Mgr Lartigue avec les communautés religieuses puis le clergé, c'était pas facile. Les Sulpiciens avaient toujours assumé la charge spirituelle des trois communautés religieuses féminines de Montréal, c'est-à-dire les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame, les Sœurs de la Charité, c'est-à-dire les Sœurs Grises, et les Hospitalières de Saint-Joseph, de l'Hôtel-Dieu. Les deux premières ont partagé longtemps le point de vue des Sulpiciens à l'endroit de Mgr Lartigue. C'est seules les Hospitalières de Saint-Joseph, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui ont fait exception. Et Mgr Lartigue confiait, « Je puis dire qu'ici, au moins, je suis quelque chose. » Quelque chose, pas quelqu'un, mais quelque chose, c'est surprenant. Et il ajoute, « Au lieu que dans les autres communautés, je suis simplement zéro. » Et que tout s'y fait absolument comme si je n'étais pas au monde. Alors, les sœurs de la congrégation et les sœurs grises le traitaient pas très gentiment. Le décès de Mgr Plessis, à Québec, en décembre 1825, rend plus précaire que jamais la position de Mgr Lartigue à Montréal. Les Sulpiciens ont cru que le moment était propice pour revenir à la situation qui prévalait avant 1820. Alors, Saint-Sulpice, petit à petit, commence à comprendre. Et Mgr Lartigue est confirmé dans son autorité par l'évêque de Québec, le nouvel évêque. Mgr Lartigue pouvait enfin se mettre à la tâche. Son établissement de Saint-Jacques, au coin de Saint-Denis et Sainte-Catherine, était à peine terminé qu'il décidait d'y établir une école de théologie pour les candidats au sacerdoce. Un grand séminaire, quoi. Et à l'exemple de son maître à penser, qui était l'abbé Félicité de Lamennais, un Français dont je vous parlerai un jour, eh bien, Mgr Lartigue tenait pour essentiel la formation théologique et spirituelle des séminaristes. Et pendant 15 ans, sous la direction de son secrétaire et son bras droit, qui était nul autre que l'abbé Ignace Bourget, futur Mgr Bourget, ils seront très intimes, eh bien, le séminaire Saint-Jacques, le grand séminaire Saint-Jacques, si on peut dire, devient un véritable foyer d'ultramontanisme, c'est-à-dire d'un attachement très, très fort au Vatican. Ils appuient l'infaillibilité du pape, sa figure au nombre des doctrines qui sont enseignées aux étudiants. Alors, on affirme une foi catholique très ferme, presque trop stricte. Un domaine auquel l'évêque devait porter un vif intérêt au cours de cette période fut celui de l'éducation. Donc, il est convaincu qu'il s'agissait là d'une responsabilité exclusive de l'Église à son époque. Il voulait pas que l'enseignement se donne par des gens qui soient des ennemis de l'Église. Eh bien, Mgr Lartigue a encouragé les curés à fonder des écoles de paroisse. Et c'est de là que ça vient nos écoles confessionnelles. Lui-même a donné l'exemple en ouvrant à Saint-Jacques une école gratuite qui comptait, en 1826, près de 80 écoliers. Et peu après, il a fondé une seconde école dont il a confié la direction à un groupe de dames réunies en association de charité. On appelait ça l'Association de charité des dames et demoiselles de Montréal pour l'instruction des filles de l'école appartenant à l'église Saint-Jacques. C'est très long comme nom. Parler aussi de sa sollicitude pour le collège de Masca ou de Saint-Hyacinthe, dont il était le supérieur depuis 1824. Plus tard, il va songer à démissionner de son poste en 1835 et il va émettre le vœu de se retirer dans son collège d'Yamaska, où, dit-il, il s'amuserait. Oui, il s'amuserait. Probablement à faire l'enfant avec cette jeunesse. C'est un peu taquin. Mgr Lartigue jugeait d'autant plus impérieuse la prise en charge de l'éducation par le clergé qu'il voyait au même moment toutes les tentatives de la Chambre d'Assemblée ou de l'Assemblée nationale, si vous voulez, comme on dirait aujourd'hui, pour créer un réseau parallèle d'écoles neutre ou laïque qui échapperait au contrôle des curés des paroisses. Comme vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui la difficulté. Alors, sanctionné le 14 mars 1829, la loi des écoles élémentaires, bien qu'elle réponde à un besoin, c'était le reflet de l'esprit laïque qui s'affirmait alors de plus en plus au Canada français. C'est les idées voltairiennes qui sont transportées ici et qui sont pour la liberté de l'enseignement indépendante d'un enseignement catholique qui était jugé trop catholique par bien des intellectuels canadiens ou québécois, si vous voulez. Canadiens-français, quoi. L'article, Mgr l'article, se montrait sévère pour cette loi, qui avait cherché, comme il le dit, à paralyser l'influence modérée que le clergé catholique pouvait acquérir en vertu de la loi de 1824, et qui avait tout fait pour rendre mauvaises nos écoles primaires et les ôter des mains du clergé pour les transporter aux laïcs. Et cette loi de 1829 fait partie d'une vaste offensive laïcisante de la part des chefs de l'Assemblée. La Chambre de l'Assemblée visait à subjuguer l'Église, à dominer l'Église, à miner l'influence du clergé auprès du peuple et à rendre les cadres de l'Église plus démocratiques au nom de principes que l'on appelait des principes libéraux. Alors d'où vient, avait écrit Mgr l'article, d'où vient que les Canadiens catholiques sont toujours les premiers à tracasser leurs prêtres et à fronder les règles canoniques de leur religion? Quelle faute avait commise le clergé pour mériter d'être apostrophé par quelques membres de la Chambre d'un ton si outrageant? Alors, il est vraiment en lutte contre ceux qui gouvernent le pays. C'était une minorité qui menait le bal, il faut dire. En fait, cette initiative de l'Assemblée qui visait à instaurer dans le Bas-Canada, c'est-à-dire dans le Québec, une société séculière, de même que les fréquentes sorties contre le clergé dans les journaux, à la Chambre d'Assemblée, ne faisait que refléter, selon Mgr Lartigue, l'esprit actuel de la vieille France qui commençait à s'introduire dangereusement, disait-il, dans la province. Quelqu'un avait écrit dans la Minerve qu'il était temps de faire disparaître du Canada, c'est l'air pestilentiel et empoisonné que l'absolutisme y souffle depuis trop longtemps. Alors on en voulait beaucoup à l'Église, comme vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, hein. En s'opposant énergiquement au courant laïciste qui se manifestait ouvertement, bien, Mgr Lartigue entendait préserver le caractère chrétien de la société québécoise. Il voulait maintenir prépondérante l'influence du clergé. Les prêtres, n'hésitez pas à affirmer Mgr Lartigue, ont seuls conservé les arts et les sciences, les principes de la justice et des mœurs, au milieu des ravages de la barbarie. Sans eux, les lettres se perdent chez tous les peuples aussi bien que la morale, disait Mgr Lartigue. Dans cette province en particulier, il n'y a de véritable et solide éducation que chez les prêtres. Alors dès lors, Mgr Lartigue va prendre la tête d'une contre-offensive qui va rendre le dialogue impossible entre l'Église et les chefs de l'Assemblée. Et en 1832, le schisme entre les deux élites était consacré. Mgr Lartigue le constatait non sans amertume. Dans une lettre à son cousin, Denis Benjamin Vigier, il parle de leur cousin, Louis-Joseph Papineau, en disant « On peut dire que Papineau et plusieurs autres se sont conduits d'une manière honteuse dans cette affaire et qu'ils ne pouvaient faire mieux pour faire rire leurs ennemis en détachant le clergé de la branche populaire de notre législature. » Et Mgr Lartigue faisait un avertissement sévère aux hommes politiques canadiens, disait que nos législateurs ne s'y trompent pas. Ce n'est pas en s'isolant des talents et du crédit de leur clergé qu'ils amèneront les diverses classes du peuple à cette union si désirable et nécessaire pour la juste réclamation de nos droits civils. Ce n'est pas en diminuant l'influence raisonnable qu'ont les curés de cette province qu'on y fera régner la paix et la concorde. Ça me rappelle la grande querelle qui a eu lieu dans les années 50 contre les jésuites qui voulaient fonder à Montréal une université catholique. dans le genre de l'Institut catholique de Paris, qui est très important, ou d'autres universités catholiques en France ou ailleurs, aux États-Unis, qu'on pense aux grandes universités catholiques de Washington ou de New York ou d'un peu partout aux États-Unis, qui sont très importantes, eh bien, le Québec n'en avait pas. Fondée une véritable université catholique dans les années 50, et les jésuites ont été portés au ridicule, on s'est moqué d'eux, on n'en a pas voulu, et on a eu une université de tendance marxiste pendant un bon bout de temps, l'Université du Québec, qui, heureusement, a quitté cette tendance marxiste depuis déjà plusieurs années, étant donné la chute de l'idéal communiste, marxiste. Alors, cette période marque l'avènement d'un climat de violence dans le Bas-Canada. On y est. Et on pense de plus en plus à faire une révolution, comme celle de Paris, la révolution de 1830, de juillet 1830. Alors, les leaders de l'Assemblée tiennent de plus en plus des propos violents. Ils n'hésitent pas à prôner la révolte, la séparation du Bas-Canada, du Québec, de l'Angleterre qui domine. Il faut dire que nous étions assez sévèrement taxés, et le pouvoir anglais était très dur. Alors un article paru dans la Minerve du 16 février 1832 marque le début de cette escalade. Monseigneur Lartigue, dont le patriotisme, je vous le rappelle, puis les sentiments nationalistes étaient notoires, en a été profondément choqué. Il écrit à Monseigneur Panet de Québec en 1832, « Voilà nos journaux canadiens qui deviennent plus révolutionnaires que jamais. La Minerve du 16 a donné un article où la révolution est hautement proclamée et où la haute trahison n'est déguisée sous aucun voile. » Alors, c'est une épreuve de force qui s'engage entre l'Église et les dirigeants politiques, qui ne connaîtra son dénouement évidemment qu'au moment des événements tragiques de novembre 1837, c'est-à-dire la rébellion. C'est vraiment une révolution. C'est une révolution malheureusement qui aboutit dans le désastre. Je dis malheureusement parce que je trouve pénible que nos ancêtres aient souhaité leur liberté et n'aient pu jamais l'atteindre. C'était pas facile à cette époque d'être dominé ainsi par des pouvoirs étrangers. Dans l'intervalle, Monseigneur Signé avait succédé à Monseigneur Panet sur le siège de Québec au début de 1833. Alors, un rapprochement s'est amorcé en 1835 entre Monseigneur Lartigue et les Sulpiciens. En 1835, Monseigneur Lartigue le souligne avec une joie évidente que les Sulpiciens paraissent revenus en grande partie de leurs préjugés. L'attitude plus conciliante que Monseigneur Lartigue a adoptée à l'endroit des Sulpiciens, qu'il avouait n'avoir jamais cessé de les aimer, lui qui l'a été Sulpicien, c'est pas étrangère à ce déroulement que tout se souhaitait. Alors, plus rien ne s'oppose à l'érection de Montréal en évêché distinct de celui de Québec. Alors, tout s'accomplit, tout se fait. Le supérieur de Saint-Sulpice réserve à cette occasion au premier évêque de Montréal, dans l'église paroissiale, un accueil qui va rendre encore plus éclatante la réconciliation qui survient entre l'ancien Sulpicien et ses confrères. Alors, le sermon du supérieur du séminaire, voici un petit extrait. C'est toutes les églises antiques, les églises du début de l'église, quoi, ont répété avec orgueil qu'elles avaient eu pour premiers évêques des saints. L'église de Ville-Marie pourra le dire aussi avec vérité de son premier pasteur. Entrez donc, Monseigneur, dans ce sanctuaire. Nous vénérons maintenant en vous notre Père et notre Protecteur. Vous permettrez à vos fidèles encore de vous regarder comme un d'entre eux, mais vous serez le premier. Oui, vous êtes notre frère, et en cette qualité, vous pouvez compter sur une coopération franche et entière de notre part pour vous aider à porter le fardeau de votre épiscopat. Et quel fardeau, hein? De 1836 à 1840, la plus grande harmonie va régner entre le séminaire et l'évêque de Montréal. Monseigneur Lartigue n'aurait pu espérer connaître le calme et la paix, mais toute hostilité avait cessé à son endroit. Et le gouvernement de Londres, après avoir enfin reconnu comme évêque de Montréal, avait renoncé à s'immiscer dans les affaires internes de l'Église. Enfin, Londres laisse l'Église catholique en paix. Pourtant, les dernières années de son épiscopat comptent parmi les plus douloureuses de sa vie. Elles coïncident avec l'état de crise aiguë qui va secouer le Bas-Canada, le Québec. Et même les anglophones vont se révolter aussi contre le gouvernement de Londres. Faut pas oublier que cette révolte est une révolte des deux peuples du Québec, le peuple majoritaire francophone et le peuple minoritaire anglophone. Et les radicaux vont prendre le pouvoir au sein du Parti patriote. Le 25 juillet 1837, lors de la cérémonie du sacre de son coadjuteur, Mgr Bourget, l'évêque de Montréal avait tenu à mettre en garde ses fidèles contre toute action révolutionnaire qui ne pouvait être que préjudiciable à la cause qu'il défendait, parce qu'il voyait bien que les Anglais les écraseraient. Son cœur est déchiré. Le 24 octobre, nullement intimidé par le défilé deux jours plus tôt devant l'église Saint-Jacques de plus de 1200 patriotes qui protestent contre ses directives, bien, l'évêque de Montréal, Mgr Lartigue, adresse à ses diocésains un mandement pour les prémunir, dit-il, contre les menées et les discours trompeurs des agitateurs. Et on va le lui reprocher jusqu'à aujourd'hui, On considère toujours Mgr Lartigue comme un mollasson. Je ne crois pas. Je crois que c'est faux. Et puis, il a craint la puissance civile et l'armée anglaise. C'est un document paternel qu'il adresse à ses fidèles, mais il ne sera pas compris. Et la rébellion aura lieu, et ce sera tragique. Les événements allaient lui donner raison. La révolution que les chefs patriotes avaient si ardemment désirée se solde dans un échec lamentable. En mettant en garde ses compatriotes contre une lutte inégale, Mgr Lartigue avait fait preuve d'un flair et, je crois, d'une sagesse politique qu'avait d'ailleurs reconnu le journal Le Canadien, qui était Le Canadien dans le sens le québécois, si vous voulez. C'est ça que ça voulait dire dans ce temps-là. Ou les Canadiens français. Et puis les patriotes modérés aussi avaient reconnu ça, les patriotes modérés de la région de Québec. Le 8 janvier 1838, l'évêque de Montréal adressait un second mandement à ses diocésains. Et il disait, « Que devez-vous penser aujourd'hui de votre clergé qui a fait tous ses efforts pour vous prémunir? Et il vous est aisé maintenant de distinguer vos véritables amis, les vrais patriotes, ceux qui vous veulent du bien, d'avec ceux qui ne visaient qu'à s'élever, à dominer dans un nouvel état chimérique et à prendre la place de ceux qu'ils pourraient dépouiller. » C'était ça le problème de Mgr Lartigue en vrai patriote québécois. Faut pas oublier ça. Quelques temps vont s'écouler avant que cesse tout ressentiment à l'endroit de Mgr Lartigue. Dans ce climat survolté qui s'est poursuivi péniblement, mais son action pastorale s'exerce quand même. Il s'occupe de 200 000 personnes réparties dans une centaine de paroisses ou missions. Au plan social, il s'occupe de l'orphelinat catholique de Montréal, dont il a encouragé l'établissement en 1832. Et pour Madame Émilie Gamelin, qui avait fondé à son instigation en 1834 l'Asile de la Providence pour les femmes âgées et infirmes, je vous ai parlé avant-hier de cette magnifique religieuse de la Providence, auteur spirituel remarquable. Au plan éducatif, il a réalisé un rêve qui lui était cher en faisant venir de France, en 1837, quatre religieux enseignants, des frères de la doctrine chrétienne. Au plan pastoral, il a institué toutes sortes de choses. Il a fait énormément pour faciliter la venue des jésuites, etc. Le retour. Au moment de son décès, il est survenu à l'Hôtel-Dieu de Montréal, le 19 avril 1840, tous ont été unanimes à souligner la grandeur de l'épiscopat de Mgr Jean-Jacques Lartigue. À ses obsèques célébrées à l'église Notre-Dame le 22 avril 1840, plus de 10 000 fidèles ont témoigné de leur respect par leur recueillement, comme on l'écrit. Autant était présent le lendemain à la cathédrale Saint-Jacques, alors que Mgr Bourget rendait un dernier hommage à son prédécesseur, en disant « Il a été un pasteur accompli, grand par ses éminentes qualités, utile, nécessaire par ses vastes connaissances, ses vues profondes et ses immortels travaux. Que Montréal se réjouisse d'avoir été son berceau et que ce nouveau diocèse se glorifie de l'avoir eu pour fondateur. Il est la pierre angulaire de ce brillant édifice qui ne s'élève aujourd'hui avec tant de hardiesse que parce qu'il repose sur ce solide fondement. » Alors, rappelons-nous, dans les mouvements politiques qui sont présents dans notre pays, tant au fédéral qu'au provincial, que tous ceux qui s'opposent à la violence sont dans l'esprit de Mgr Lartigue. Mgr Lartigue n'a pas été un traître, un collaborateur, mais un patriote sage, un évêque au cœur évangélique. Je crois que si c'était peut-être pas un saint, c'était un grand évêque, montréalais, né à Montréal.